Isabelle Bresse.
Sud Radio.
C'est vous.
C'est vous.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio. Les personnes qui sont avec nous aujourd'hui ont toutes survécu à un drame, accident sur un porte-avions, attentat à Istanbul, 13 novembre. Ils ont bien failli trouver la mort et tous ont dû se reconstruire et trouver un moyen de continuer. On verra comment ils ont fait et comment vivre après un drame. Avec nous pour en parler, Jean-Pierre Vouche, qui est psychologue clinicien spécialiste en urgence post-traumatique. Eh bien, à tout de suite sur Sud Radio. Isabelle Bresse.
Sud Radio, c'est vous.
Bonjour à vous qui nous retrouvez dans cette première heure, je le disais. On va parler de ces personnes qui ont survécu à un drame et qui même parfois l'ont transformé en une chance. Ça leur a permis aussi peut-être de trouver un chemin, de trouver une voie, une direction, de donner un sens à leur vie. Pour en parler avec nous, Jean-Pierre Vouche. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous Jean-Pierre? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu sur l'antenne de Sud Radio.
C'était suite aux attentats.
Absolument, c'était dans des conditions un peu dramatiques. Vous étiez le premier sur les attentats du 13 novembre.
Oui. Il y en a malheureusement, j'ai encore des personnes en suivi. Sur les à peu près des 200, j'en ai encore une douzaine, tant du Bataclan que des terrasses et aussi du stade de France qui sont suivis parce que la résilience, oui, ça peut prendre du temps pour certains.
Il faut combien? Alors, j'imagine déjà, première question, quand on est à votre place, c'est-à-dire qu'on est parmi les premiers à arriver sur un événement comme celui du 13 novembre, où vous avez aussi été le premier sur des crashs aériens, des accidents, des choses très dramatiques, on doit être aussi très traumatisé de voir ce qui s'est passé, d'être sur la ligne de front.
Alors, je pense que si on fait ce métier-là, c'est qu'on a nous-mêmes des bonnes capacités de résilience. Moi, je l'ai découvert avec le temps, confronté à la mort dans différents lieux, que ce soit des guerres civiles ou bien des événements très traumatiques. Et finalement, on arrive à bloquer. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotions, mais on bloque ses émotions parce que on se destine complètement aux personnes qu'on va suivre. On a un travail quotidien de supervision quand même pour nous aider, pour reparler des images les plus traumatiques, des visages par exemple au Bataclan, il y a des choses qui restent un peu incrustées pendant quelques semaines, et on voit qu'avec le temps pour nous-mêmes, bon, on arrive à digérer ça et puis être très présent pour les victimes, pour les survivants, on a une capacité et puis on s'entretient et on travaille cette supervision qui nous permet de tenir et puis de rebondir malheureusement sur d'autres événements parce que comme on l'a vu aussi avec Bruxelles, il faut être disponible. On est d'ailleurs sur le qui-vive, j'ai toujours mon matériel, les blousons sont prêts dans la voiture, on sait qu'on risque d'être appelé.
Et oui, donc c'est compliqué. Et puis pendant combien de temps est-ce que vous suivez ces victimes?
Très variable. Donc la première période, c'est de gérer donc la symptomatologie post-traumatique. Première période, c'est la réaction immédiate. C'est pour ça qu'on nous demande de venir précocement, le plus rapidement possible, pour accompagner. Là, je prends l'exemple de patrons et d'employés de terrasse qui, je suis resté une semaine avec eux, mais 24 sur 24, pour soutenir l'enfant qui avait perdu sa maman, soutenir les salariés, la famille, et donc dans ce cas-là, je dirais le pompier de service psychologique va travailler, on va dire une bonne semaine. Après il passe la main parce que on peut pas être aussi celui qui va suivre au long cours. Néanmoins, on fait des orientations. Ce qu'il faut dire en France, c'est que tout le monde n'est pas formé forcément au post-trauma et que les situations nous reviennent. Donc moi, j'ai eu en janvier, début février, des situations qui sont revenues parce que les gens sont pas assez disponibles, les consultations sont déjà pleines, on n'a pas assez de moyens au niveau psychologique en France. Résultat, il y a des gens qui reviennent au premier personnage qu'ils ont vu, qui était là à les secourir, à les accompagner. Ça peut prendre du temps et je vois pour le crash Concorde, ça m'est arrivé de soutenir encore des hôtesses qui avaient perdu leurs collègues 2 ans après, quoi.
Et il faut combien de temps à peu près en moyenne pour que ces personnes victimes d'une catastrophe, d'un drame, se remettent et arrivent, si tant est qu'on puisse y arriver, à se remettre dans une vie normale ?
de notre état de vulnérabilité. Hein, si on est en pleine forme, qu'on n'a pas de soucis, qu'on n'est pas au chômage, qu'on n'a pas de drames familiaux, et que tout est au beau fixe, il nous arrive un pépin, on est plus armé que quelqu'un qui, malheureusement, vient de perdre son emploi, a perdu un de ses proches, a des soucis avec ses enfants, voilà.
Déjà
donc,
fragilisé, oui.
Là, ça peut être... Il y a des gens qui récupèrent bien, hein, en quelques heures ou semaines, et puis d'autres, on va avoir une décompensation plus tard, hein, donc on fait attention au troisième temps du post-trauma, c'est les réactions tardives. Et là, on peut avoir des gens... Il n'y a rien eu dans les premiers instants, et puis trois mois après, ils décompensent. Mmh. Et c'est pour ça qu'on reste en contact et qu'on leur donne nos coordonnées. Moi, je sais que la première semaine, là, sur les attentats, j'ai dû laisser mes coordonnées à plus de 500 personnes. Mmh. Et il y en a 200 qui ont appelé. Mmh. Voilà, donc, ça montre quand même que sur le temps, y a un travail d'accompagnement. Ça peut rester, malheureusement, pour les plus traumatisés sur plusieurs années. Puis c'est réactivé, hein, vous voyez, j'ai eu des gens qui avaient été fortement traumatisés, qui étaient un peu en rémission, ça allait mieux, et puis les attentats de Bruxelles, pouf, ça
reflambait pour eux. Ça les a remis, bah bien sûr, oui, bien sûr, on le comprend. Alors Jean-Pierre, on va parler de tout ça tout au long de cette émission, comment on fait pour retrouver la ressource en soi, pour repartir, ou en tout cas pour continuer à vivre. Avec nous Esteban Perrois. Esteban, bonjour.
Bonjour, bonjour Isabelle. Bonjour,
bienvenue, Jean-Pierre. Bienvenue et merci d'être avec nous régulièrement dans cette émission. Vous allez... comme tout le monde, vous avez vécu aussi des drames, parce qu'on vit tous. On parle de catastrophes, on parle d'attentats, mais on parle aussi de drames personnels qui peuvent nous empêcher d'avancer. Et ça aussi, il faut réussir à les surmonter. On va en parler tout au long de l'émission. Et puis, on est aussi avec Patrick Cranier. Bonjour Patrick, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Isabelle.
Vous-même, vous avez été victime d'un attentat, c'était en 1994, et vous êtes aussi, nos auditeurs vous connaissent bien, l'un de nos éditorialistes récurrents dans le grand show de la présidentielle avec Cyril Brioulet.
Absolument.
Et donc vous, c'était en 1994 à Istanbul, entre Noël et Jour de l'An. Et c'était une période de vacances. Et c'était l'attentat qui a eu lieu au bar de l'hôtel Marmara.
Exactement. Mmh. Une période où il y a eu pas mal d'attentats d'ailleurs, puisqu'il y avait eu aussi le détournement de l'Airbus qui Absolument, avait ouais. été libéré à Marseille. Deux ou trois autres attentats en Turquie en même temps, quoi, à peu près.
C'est ça, donc c'était en pleine période d'attentats en 94. Vous étiez vous-même au bar de cet hôtel ?
Oui, j'étais. Alors, j'avais atterri à 15h et j'étais en train de prendre un thé. Il était 17h. J'étais pas encore installé dans la chambre d'hôtel.
Vous veniez d'arriver, donc c'était.
On venait d'arriver avec mon épouse et
Fête de bienvenue, en fait. Hein.
Voilà, c'est ça. C'était le bienvenu à Istanbul.
Tout à fait.
Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, une bombe a explosé au bar de l'hôtel. Ouais. Qui avait été placé dans un manteau dans le vestiaire de l'hôtel. Et il y a eu trois morts, quelques blessés. Et je peux dire que les deux personnes qui sont mortes devant moi m'ont protégé. Sans ça, je ne serais pas là pour en témoigner aujourd'hui.
Alors, j'imagine que quand on vit un attentat comme celui-ci, comme les personnes qui ont vécu le 13 novembre, comme les attentats de Bruxelles, on est effectivement très traumatisé, très atteint. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la ressource en soi pour essayer de repartir ?
Alors, c'est un peu particulier parce qu'à l'époque, j'étais pas journaliste, j'étais psychanalyste. Et que j'ai réagi, comme le disait votre interlocuteur tout à l'heure,
Jean-Pierre Rouche, oui.
J'avais des éléments pour réagir sur le moment. Mmh. Et malheureusement, puisque je dis bien malheureusement, je me suis occupé des blessures physiques, et j'ai été blessé physiquement aussi, donc je me suis occupé de ça. Et c'est seulement deux mois après être entré en France... après avoir entendu tout mon entourage qui disait « mais toi c'est rien psychologiquement parce que t'es psy », vous voyez, j'entendais ce genre de choses, que j'ai décompensé un état dépressif post-traumatique.
Et après, vous étiez avec votre épouse a subi le même traumatisme également ?
Alors absolument pas, mon épouse est médecin, et sa seule réaction a été une réaction de médecin, c'est-à-dire qu'elle a été voir les blessés. Et comme ça se passait dans une période de grand tourisme en Turquie, on a été évacués du bar. Tous ceux qui n'avaient pas des blessures visibles, c'est-à-dire du sang, ont été évacués par la police parce qu'il fallait surtout pas rester dans le bar. Et elle a même pas pu aider les blessés qui étaient par terre parce qu'ils l'ont sorti et on s'est retrouvé dans le hall de l'hôtel immédiatement en l'espace de quelques 5 à 10 minutes, quoi. Et il fallait nettoyer le bar pour qu'il recommence à travailler. Et donc, les ambulances ont emmené les blessés et les décédés. Et le bar a réouvert 2 heures après, quoi.
Ah oui, d'accord.
Ça, tout... c'est assez hallucinant. En fait,
c'est incroyable, hein. Esteban.
On ne peut pas imaginer que ça se passe comme ça à Paris, par exemple.
Alors c'était en 94 et on n'avait pas les connaissances que l'on a aujourd'hui de l'intervention sur des zones d'attentats. On était très très désemparés complètement parce que tous les gens du bar ont été sortis manu militari quoi. Et je suis certain qu'il y a eu des personnes qui ont eu des états traumatiques psychologiques après, qui n'ont pas été pris en charge, parce qu'il n'y avait aucune prise en charge de fait. Moi, j'ai eu la chance d'être en France, d'être installé comme psychanalyste. J'ai d'abord été voir mon superviseur, puisqu'on parlait de superviseur tout à l'heure, et c'est lui qui m'a dit, il faut que tu refasses une période d'analyse qui a duré quand même 1 an et demi, où il a fallu que je dépasse cet événement et que je puisse retomber sur mon équilibre personnel.
Et est-ce que vous pensez que le fait d'être avec votre épouse à ce moment-là, même si elle n'a pas vécu la chose de la même manière, ça a pu vous aider à être plus solide et à tenir mieux par la suite ? Et
ça m'a aidé à trois niveaux. D'abord, ça m'a aidé parce qu'on était ensemble. Ça m'a aidé parce que dans sa trousse de toilette, elle avait du Lisantia.
Qu'est-ce que c'est du Lisantia ?
C'est un anxiolytique.
D'accord.
Et qu'elle m'en a donné immédiatement parce que effectivement, immédiatement après cet attentat, j'étais quand même très mal. Et il faut savoir qu'elle, elle était plus loin que moi. Elle n'était pas encore installée à table. Elle était partie aux toilettes. Et quand la bombe a explosé, elle n'était pas à l'endroit où ça a explosé. Moi, j'y étais, mais j'y étais tout seul.
D'accord.
Et donc, elle est venue d'abord vers moi pour une réaction logique.
Voir comment vous étiez, oui, si vous alliez bien, bien sûr.
Voir comment j'étais, j'avais du verre partout sur la tête et tout. Mais j'ai surtout été blessé, j'ai eu un effet de blast et puis un problème auditif important.
Qu'est-ce que c'est un effet de blast ?
C'est-à-dire que l'explosion de la bombe provoque un souffle qui provoque des traumatismes pulmonaires.
D'accord.
En termes concis, parce que je ne suis pas médecin, donc un médecin vous en dirait beaucoup plus sur ce que c'est que le blast.
C'est une espèce d'écrasement en fait qui fait suffoquer comme dans les crashs aériens.
D'accord.
Je crois, ça semble ça.
Jean-Pierre Vouche, ça fait combien de temps que ces cellules d'urgence post-traumatique sont mises en place ?
Je pense que pour resituer, c'est dans les années 95 que les cellules d'urgence médico-psychologiques ont été mises en place. Entre autres, à l'époque, c'était le professeur Louis Croc, psychiatre, qui a beaucoup travaillé sur les problématiques de guerre, névrose de guerre, les réactions des populations bombardées au Liban, etc. Voilà. Donc, d'ailleurs, on s'est croisés, hein, on a vu intervenir ensemble, et c'est une période, en effet, où on a vu les premiers éléments, je dirais, de prise en charge. Hein. Maintenant, logiquement, tout devrait être rodé, mais on a vu qu'avec les attentats, quand on est sur, malheureusement, des traumatismes de masse, il n'y a pas assez de personnel, quoi. Hein. Moi, je me suis retrouvé à travailler 7 heures tout seul, parce que les collègues, ils faisaient le pont, hein, c'était le 11 novembre, et le temps qui rapplique, j'ai vu des collègues de Lille nous aider, parce que sur Paris, on était un peu en sous-effectif. Voilà, donc les cellules d'urgence médico-psychologique, il faut savoir, c'est des personnes volontaires qui travaillent dans les hôpitaux parisiens ou bien des hôpitaux en province, en région, et puis on les appelle, mais il faut qu'ils soient dispo au moment où on les appelle. Donc là, il y en avait beaucoup en vacances. Voilà, donc c'est en effet dans les années 95 qu'on s'est vraiment préoccupé du soutien psychologique.
C'est après les attentats du métro Saint-Michel, je crois.
Oui,
d'accord.
Dans votre métier, comme vous en parlez, Jean-Pierre, bon, évidemment, j'imagine qu'il y a des vrais process, des techniques, des choses structurelles à apprendre et à connaître pour aider quelqu'un qui est en situation de traumatisme immédiat. Mais est-ce que la manière dont chacun est fait, sa manière d'être, son ressenti, sa psychologie personnelle est pas presque aussi importante que les techniques qu'on vous enseigne pour être auprès des gens qui subissent ça ? Je ne sais pas, en fait.
Oui, alors ce que je disais tout à l'heure, tant pour les victimes, ça dépend aussi de nos capacités, de notre état de vulnérabilité ou pas, et puis pour les intervenants, c'est pareil. Moi, j'ai fait très attention, je me souviens d'une collègue qui revenait de Serbie, du Kosovo, et qui était restée trop longtemps, à mon avis, sur le terrain, plus de 4 mois. Quand elle a voulu se réinscrire, j'ai dit, écoute, moi, je trouve que là, tu... t'as quelques symptômes qui me fait dire que toi aussi, avec tout ce que tu as entendu, vu, bah, faut que tu récupères. Voilà, donc il faut qu'on soit en pleine forme, hein, nous, les intervenants. Quant aux personnes qui vont être malheureusement témoins ou bien pris dans l'événement, bah, l'événement, il est tellement violent et brutal, ça fait irruption hein, dans la vie d'un individu. Bah, on est complètement débordé face à l'événement et à nos défenses psychologiques hein, qui peuvent être anéanties. Alors, il y a des gens qui réagissent bien parce que, bah, aussi préparés. Hein. Moi, je vois, je suis intervenu à Gaza sous les bombes en 2009. Bon, j'étais préparé quand je suis allé. Je savais ce qui m'attendait. J'étais déjà parti en Afghanistan, donc je connaissais les conditions. On est moins surpris quand on intervient que si on est projeté, nous, en tant que soignants, mais aussi des individus qui n'ont pas prévu. Hein, on va au Stade de France, on va pour un match de foot, on s'attend
on
pas
va
à
boire un coup, on va boire un coup avec des copains dans un bar, effectivement, et ça nous touche, c'est très proche. On n'est pas a priori dans un pays en guerre, on n'est pas a priori dans un pays où on pourrait s'attendre à subir ce genre d'attaque. On continue à parler de ce sujet, comment faire pour survivre à un drame, à une catastrophe. On en parle tout de suite avec Jean-Pierre Vouche, toujours avec Patrick Cranier, et puis on sera avec Franck Bruno et on reste avec Esteban Perrois. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio,
c'est vous.
C'est vous.
Isabelle Brasse.
J'ai survécu à un drame, c'est le thème de cette première heure. Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Vouche, qui est spécialiste en urgence post-traumatique, psychologue clinicien, avec Patrick Cranier, que vous connaissez bien sûr, qui est l'un de nos éditorialistes récurrents dans le grand show de la présidentielle, avec Cyril Brioulé, mais vous le savez peut-être moins, qui a été victime d'un attentat en 94 à Istanbul. Et on est avec Franck Bruno. Franck, bonjour, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Isabelle.
Comment ça va Franck ?
Impeccable, à bord du Cabochard, Sud-Corse, soleil, la vie est belle.
Voilà. Vous êtes sur le Cabochard là, la chance.
Voilà. Ouais, oui, j'ai bien écouté tout ça avec attention et c'est vrai qu'on est tous des traumatisés quoi.
Alors Franck, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, on va quand même rappeler en quelques mots votre histoire. Vous étiez sur un porte-avions, vous aviez quoi, 18 ans ?
J'avais 18 ans, Olifant 13, et on est parti au Liban en 83, où c'était vraiment chaud bouillant. Et pour faire bref, je suis revenu avec une jambe en moins, en ayant vu les attentats, en ayant vu des copains mourir, et etc. etc. Et à l'époque, en 83, il n'y avait pas de cellule psychologique. J'ai perdu la jambe, on m'a mis à l'hôpital après 10 jours sans soins. Et je le dis à chaque émission que je fais, je le dis parce que c'est quand même énorme, 10 jours sans soins, parce que j'en sais rien.
C'est fou. Enfin, bref. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez sans doute perdu la jambe, c'est parce qu'il n'y a pas eu de soins, donc septicémie.
Mon pied était déjà écrasé, broyé, mais ça, j'aurais pu être amputé plus court. Enfin bref, et je suis rentré au centre de rééducation, première prothèse, ben, tu rentres à la maison. Comment mais rien, mais pas de cellule. Et ma cellule psychologique, moi, ça a été la nature et la plongée. Heureusement. Mais il y en a qui ont été moins forts que moi et qui se sont foutus en l'air. Alors soit par un suicide rapide, soit par un suicide plus lent avec l'alcool, la drogue, ou alors les conneries, braquages et bêtises de ce genre-là, pour à la fin être mort, quoi. Je trouve ça dommage.
Alors vous, ce drame, cette chose terrible qui vous est arrivée, finalement, vous avez su le transformer. Et souvent, vous dites que bah, peut-être que s'il n'y avait pas eu cet accident-là, votre vie n'aurait pas pris le chemin qu'elle a prise. Et aujourd'hui, vous avez quand même une vie assez extraordinaire. Avec Bout de Vie notamment, vous aidez des gens qui ont été amputés à s'en sortir, à trouver la force en eux d'avancer malgré des situations parfois dramatiques. C'est vrai que finalement, ce malheur, vous avez réussi à le transformer.
Oui, moi j'aime bien l'humour. En 2005-2006, j'ai traversé l'Atlantique à la rame. C'était une course, fini troisième avec Dominique Benassi, on était des duos. Et quand on arrive de l'autre côté, on est attendu quand même par beaucoup, beaucoup de médias. Et il y a un journaliste, donc Dominique, lui, c'est un coup de fusil à bout portant qu'il a pris pour perdre sa jambe. Moi, c'est la guerre du Liban, donc quand même, on a subi des drames, on va dire. On va dire drames.
Dominique, c'est Doumé, c'est votre copain.
Et un journaliste nous dit, vous avez eu quoi comme préparation physique? Vous allez tellement frais après 54 jours de rame, et Doumé, avec son humour Bastille, il regarde et dit, tu sais, moi, on m'a tiré dessus à bout portant, et Franck, c'est pendant la guerre du Liban. Et ça nous a apporté une force, une énergie incroyable. Voilà. Ça, c'est pour résumer un petit peu. Vous savez, les douleurs, elles sont inévitables. On a tous dans nos vies des douleurs. Par contre, ce qui est intolérable, c'est la souffrance. Et la souffrance, c'est quoi? C'est juste une gestion de notre douleur. Quand j'ai notre expédition, j'ai traversé le Groenland d'ouest en est. J'ai eu mon moignon qui a doublé de volume en plein milieu du Groenland. J'ai dû m'injecter de la morphine. Et là, j'ai discuté avec cette douleur. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me pourrir cette traversée, 34 jours de marche, à des températures incroyables? Eh ben non. Tu vas être là, tu vas m'indiquer que j'ai mal, mais tu vas être juste une compagne. Une compagne douloureuse, mais tu vas être une compagne. Et je suis allé au bout du chemin. Et tous, on a tous le choix de rendre ces douleurs ou souffrantes, ou alors mais énergisantes. Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir tout seul et que ce soit énergisant. C'est devenu un terreau, c'est devenu quelque chose de puissant pour aider les autres et réaliser ce que appellent certains des exploits.
Ce qui vous est arrivé aussi, Franck, on a l'impression que ça vous a donné aussi le goût de vous surpasser, de vous dépasser, parce que tous les ans, c'est un nouveau challenge. Cette année, il y en a un autre encore, j'imagine. Il se passe quoi cette année? Je vais encore venir en Corse et je vais encore vous rater. Vous allez encore...
Une autre fois.
L'année dernière, vous étiez où l'année dernière?
L'année dernière, je me suis fait déposer avec des jeunes cassés par la vie sur une île déserte de la côte ouest du Groenland. Il y avait un tipi, un fusil, une canne à pêche, et ces gamins, je les ai pris là. Ils devaient assumer leur autonomie complètement dans cette région, l'une des plus hostiles au monde, et ils devaient se démerder. Là, j'ai un projet, aller avec ma compagne, qui est une monitrice, plongeuse professionnelle, qui prend sa retraite, de traverser en kayak la totalité, en partant de Russie, la totalité de la Scandinavie, par l'intérieur des terres en kayak, donc les lacs, remonter les rivières, les traverser, enfin, etc., etc.
Et donc, je suis épuisé rien qu'à vous écouter, Franck.
Pour répondre à votre question, quand vous passez toute votre vie, on vous dit, ça tu peux pas le faire, tu sais mec, parce que tu es handicapé. Ah non, ça tu peux pas le faire parce que tu es unijambiste. Du coup, moi, les Corses, on est un peu têtus. Je dis pourquoi je traverserais pas un océan larme? Pourquoi je ne deviendrais pas scaphandrier professionnel? Pourquoi j'irais pas au-delà des 100 mètres? Pourquoi?
Parce que quand vous dites ça en plus, vous reprenez votre accent corse.
Non, il a toujours l'accent corse, Franck. Il a toujours l'accent corse.
Ça a été un moteur, et grâce à Bouddhi maintenant, depuis 13 ans, cette association existe, et j'essaye de transmettre cette énergie aux jeunes. Régulièrement dans les stages, je détecte des jeunes qui vont m'avouer, non, en plus de leur amputation, qui sont homosexuels, qui sont drogués, qui ont des petits soucis, et on en parle, et du coup ça déclenche des choses. Et la dernière que j'ai eue en date, elle est dans votre région, Laetitia, elle est rentrée à la maison, elle a pris son mari, elle a dit maintenant tu te casses de la maison, je divorce, je vais perdre 20 kilos et je vais vivre.
Ce qu'on voit, Franck, aussi souvent avec ces personnes qui ont vécu des choses difficiles, c'est que c'est souvent le déclencheur pour comme si le fait de tutoyer la mort, de tutoyer le pire, c'était le déclencheur pour se mettre en phase avec sa vie, pour enfin se mettre à vivre. Alors souvent l'électrochoc est difficile, mais voilà.
Mais difficile, mais je dirais moi nécessaire. Je n'avais jamais pleuré devant un oiseau de ma vie, et quand j'étais à l'hôpital Sainte-Anne à Toulon, j'étais en salle en soins intensifs et tout, et d'un coup, derrière mon carreau stérilisé, j'ai vu un rouge-gorge. Je me suis dit, mon Dieu, d'un peu ce rouge-gorge, je ne pouvais pas le voir. Alors qu'avant, le rouge-gorge, rien à foutre du rouge-gorge. Allez, casse-toi, retourne jouer avec tes copains, m'emmerde pas. Et là, du coup, on réalise les choses. Mais c'est pas donné à tout le monde encore. Et moi, je connais plein de personnes qui ont été touchées dans leur chair par des accidents, des attentats, des maladies, qui ne l'ont pas encore compris. Donc, ils reproduisent encore des événements jusqu'au moment où ils vont être obligés, j'espère pour eux en tout cas, de comprendre le message. La vie nous donne que des messages. C'est les malheurs qu'on prend dans la gueule. C'est pas des punitions, c'est juste des petits points blancs qui nous guident dans notre vie obscure et si minuscule. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais notre culture occidentale ne le permet plus. Elle ne permet pas. Ben non, Jésus, il a été crucifié. Voilà.
En fait, il y a une formule assez galvaudée qu'on utilise tout le temps. C'est ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Mais finalement, c'est tellement la vérité.
Oui.
Mais complètement. Vous savez, je reçois des gosses amputés des quatre membres. Et une fois, une gamine de 16 ans, belle comme un cœur, amputée des quatre membres, suite à une espèce de maladie fulgurante, j'ai oublié son nom, c'est le purpura.
Vous m'en aviez parlé, ouais, c'était dur.
Et je lui ai dit, sur la plage, écoute-moi, sur la plage, là, il y a un génie. Elle est amputée des quatre membres. Je le répète, il y a un génie. Qu'est-ce que tu lui demanderais à ce génie? Et moi, je m'attendais à me dire qu'il me rende mes mains et mes pieds. Elle m'a dit, tu sais quoi? Rien. Parce que là, je réalise vraiment que la vie est belle. Waouh! Là, on prend des claques dans la gueule.
Eh oui, c'est ça. Et comment est-ce que vous faites quand vous recevez, parce que vous recevez régulièrement des stagiaires à bord du cabochard, vous les emmenez plonger, vous leur faire vivre des aventures, vous les gardez une semaine, vous essayez de leur redonner un élan de vie. C'est quoi la première chose que vous leur dites quand ils viennent sur votre bateau? Il y a même des enfants, hein, la plus jeune, elle avait 3 ans.
Oui, complètement. Je les mets tout simplement face à eux-mêmes. Le premier jour où ils arrivent sur le bateau, je leur dis, vous enlevez les chaussures, on se met en short. Là, déjà, il y a un grand silence. Comment en chaussures? Vous allez marcher sur vos pieds plastiques. Ensuite, vous allez vous mettre en short. Donc, la plupart du temps, ils découvrent d'autres amputés que eux. Et là, il n'y a rien. Le bateau n'est pas du tout adapté au handicap. Ils se démerdent. Et tous les jours, je les pousse aux fesses. Je les pousse aux fesses pour leur dire, on fait ça et vous vous adaptez. Un gamin, à tour de rôle, on doit faire la vaisselle. Il lui manque les deux mains. J'ai dit, bon, tu viens faire la vaisselle avec moi. Il dit, non, regarde, tu te fous de ma gueule ou quoi? Sinon, avec tes moyens, tu vas m'aider. Et les parents m'ont appelé après ce stage. Je me dis, maintenant, il a envie de tout faire à la maison.
Mais il fait la vaisselle, il passe l'aspirateur.
Mais c'est vrai. Souvent, c'est pas la personne elle-même, ce sont les gens qui l'entourent qui lui disent, ça, tu peux pas le faire. Ça, tu peux pas le faire.
Mais c'est surtout là.
C'est pas grave, allez-y.
La vision de la société sur les gens handicapés, en général, a tendance à accroître leur handicap au lieu, au contraire, de les intégrer.
Ah, mais c'est vrai. Bon, ouais. Moi, depuis 15 ans que je réalise ce qu'on appelle les exploits, j'essaie de démontrer justement que ce que je fais, en 6 mois, mine de rien, j'ai traversé l'Atlantique à l'arme, je suis monté à pied au pôle Nord, j'ai traversé le Groenland d'ouest en est. Mais je connais pas de valides actuellement sur les 7 milliards de bipèdes de la planète qui ont fait ça.
Je crois qu'Esteban, il est chaud là pour partir
à fond là, on y va tout de suite.
Escalader l'Himalaya, traverser l'Atlantique à la rame, tout ça, je pense qu'il est à fond. Non, c'est vrai que vous faites des choses. Et puis alors, ça, ce sont les exploits dont on parle, mais au quotidien, Franck, c'est vrai que vous avez une pêche d'enfer, vous faites du vélo, vous escaladez, vous allez dans votre petit refuge dans le maquis et tout ça. C'est vrai qu'au quotidien, vous avez une vie qui est très dynamique, vous pouvez pas rester une journée sans rien faire.
Ah non, là je vous parle, je viens de descendre tout seul, le mât de mon bateau tout seul, je dis bien sur le ponton pour le vernir. Demain je vais faire 100 km de vélo parce que ce week-end j'ai un groupe de stagiaires, on fait de la survie, j'organise des stages de survie pour gagner des sous pour mon association, donc je pars en survie. J'arrête jamais parce que j'ai compris une fois pour toutes que le jour où on est dans la boîte, on est dans la boîte. Point barre. Ouais.
Et qu'est-ce qu'elle dit votre compagne votre compagne qui elle est valide, qui elle n'a pas de handicap, est-ce que vous lui avez insufflé justement cet élan de vie?
Ah ben complètement, là c'est quelqu'un qui a quand même travaillé 35 ans dans la plongée avec une grande école de plongée, avec plusieurs moniteurs, des centaines de clients par jour, et là donc elle est en train de prendre la retraite. Elle s'est mise au vélo, elle s'est mise à la marche en montagne, elle s'est mise au kayak, et c'est elle la dernière fois qui me dit « Bon, là, tu vas partir en expé, mais tu crois pas que je pourrais venir avec toi ?» Et j'ai dit « Cocotte, moi, je veux bien !» Alors, la belle Allemande, 1m70, 60 kilos, prof de yoga, prof de gym, prof de ski, prof de plongée, j'ai dit « Tu veux ?» Alors, tu arrêtes toutes tes conneries, maintenant, tu te mets vraiment à bosser, à faire du sport. Mais vraiment, pas pour rigoler.
Elle faisait pas assez de sport. Oui,
en
elle
fait,
est
vous
prof,
coachez tout le monde. Hein. Vous coachez votre femme, vous coachez vos élèves, vous coachez tout le monde.
Même moi, le boulet, quand je viens le voir, il me coache.
J'essaye de donner l'énergie que j'ai. Et c'est vrai, c'est la mode. Alors actuellement, ça me fait drôle, moi, de me retrouver devant des sociétés où les gars, ils gagnent 30 000 euros par mois, où moi, ils me font un chèque pour venir pour les coacher. La dernière fois, j'étais avec une grosse boîte parisienne qui fait dans le luxe de haut niveau. Je crois que vous voyez qui je veux dire, Isabelle, mais on ne dit pas le nom.
Oui.
Et là, j'ai remué les fesses de mecs qui gagnent des fortunes par mois, qui vivent dans le luxe, mais qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue de souffrir, d'en prendre plein la gueule, quoi.
Et le pire, c'est qu'ils ont aimé ça, non?
Oui, ils ont aimé ça.
Et ils se battent pour que je revienne.
C'est génial. Étonnant, Franck, c'est que vous dites qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre ce que j'ai vécu. On a l'impression, en vous écoutant, qu'en fait, avant, vous avez oublié que vous étiez vivant et en fait, ça vous a réveillé, ça vous a donné conscience que vous étiez vivant.
Alors, je tiens à le dire à l'antenne, c'est vraiment personnel. C'est vraiment par rapport à mes images de référence. Il y en a pour d'autres, ce sera différent, mais c'est vrai que pour mon petit ego, oui, ça a été ma force. Avant, j'étais aussi un, ce qu'on appelle les enfants hyperactifs. C'est vrai.
Mais, c'est étonnant. Quand on vous connaît, on est étonné.
Ça m'a permis de me décuper et surtout aussi d'aller vers les autres. Parce que c'est bien beau de réaliser des exploits, de prendre des prix, de machin, ci et là. Mais la plus belle médaille que je reçois, c'est quand, après une semaine, un gamin ou une gamine me prend dans les bras et me dit « Merci, tu sais, j'ai compris.
» Franck,
ça fait plaisir.
Après Franck, vous pouvez rester un petit peu avec nous. On continue à parler de ça avec Jean-Pierre. Vous, justement, Jean-Pierre, j'aurais voulu vous demander si le fait de vivre ce genre d'événement, après coup, vous allez nous en parler dans un instant, ça permet justement de prendre conscience de la valeur de la vie. Et puis Patrick Cranier reste également avec nous. On continue à parler de ces personnes qui ont survécu à un drame ou à une catastrophe. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bresse.
J'ai survécu à un drame, c'est le thème de cette première heure. Franck Bruno, je crois que vous devez aller finir de monter votre mât. Alors on va vous laisser partir.
Okay, merci.
Merci mille fois Franck d'avoir été avec nous, puis c'est toujours un plaisir. Et si vous êtes encore cet été, bah moi aussi je viendrai vous faire un petit bisou, parce que ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Voilà. C'est vrai, très volontiers. Et n'oubliez pas que les malheurs qui nous arrivent, ce n'est pas des punitions, juste des défis à relever. Allez,
absolument. Bisous Franck, au revoir. Jean-Pierre Vouche, c'est vrai ce que dit Franck, on se reconnaît un petit peu tous là-dedans. Quand il nous arrive une grosse tuile, il y a le moment où on se prend ce drame dans la figure et puis effectivement c'est dur de s'en relever. Et puis il y a le moment où on essaye d'en faire quelque chose de ce drame.
Et oui, donc selon les individus, ça dépend de votre, en effet, votre capacité à rebondir face aux événements et à des conditions difficiles. Donc il y a des gens qui, en effet, vont, mesurer mieux la valeur de la vie, hein, puisque quand on l'élément déclencheur, là, on voit bien, c'est qu'on a tutoyé la mort. C'est un peu comme le mythe d'Orphée, hein, nul ne côtoie la mort impunément. Et là, du coup, bah, on se dit, soit c'est l'effondrement, où on réagit. Et là, on voit à travers l'expérience de Franck Bruno, il réagit positivement au vécu d'anéantissement, parce qu'on peut être complètement anéanti. Il rebondit là-dessus. Le vécu d'être complètement annihilé, voire même d'être morcelé, quoi. Hein. Il peut y avoir des décompensations. Et on voit qu'il y a des individus qui, en effet, vont transformer ça de façon positive et vont pouvoir reprendre le développement psychique et de leur vie et d'enrayer la répétition, d'enrayer la dépression, d'enrayer l'anxiété en devenant plus fort. Hein. Et c'est vrai que, du coup, on va se muscler psychiquement dans une capacité à se surpasser et donc avoir vraiment le sens de la vie et de voir le monde avec un autre regard. Et donc ça, c'est notre résistance au choc et à cette capacité de sortir de l'obscurité, hein, de l'effroi, de l'horreur, pour pouvoir rebondir plein de vie dans un élan de vie.
Jean-Pierre, c'est vrai que ce soit vous, Franck ou Patrick, vous avez vécu des événements un peu extraordinaires, voire même beaucoup extraordinaires, mais on est tous confrontés finalement à des événements dramatiques, que ce soit la mort d'un être proche, que ce soit un enfant, sa mère, sa femme, son père, que ce soit un accident, que ce soit la maladie, que ce soit pour certains la perte d'un emploi peut être quelque chose vécu de façon dramatique.
En fait, le drame, le drame se fait à l'aune de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas vécu de plus gros drames, on a vécu des drames qui nous paraissent insurmontables.
Hein, oui, puis la perte d'un être proche ou une rupture sentimentale, ça peut être des choses vraiment très, très difficiles. Est-ce que le deuil et le fait de repartir, ça se fait de la même façon qu'après une catastrophe ou après un drame comme ceux dont on a parlé ?
Oui, on pourrait dire que c'est pas éloigné, en effet. Des gens qui ont assisté, qui ont été témoins d'attentats ou qui ont survécu à un accident, hein, je pense aux un accident de car en Thaïlande où je suis parti pour des employés du printemps, c'est vrai que ces gens-là, ils sont confrontés à la nécessité de rebondir, de faire le deuil de leurs amis ou de leurs collègues qui ont disparu dans un accident, un attentat, et que ce deuil-là, il se rapproche quand même des deuils entre guillemets classiques qu'on peut avoir à faire, hein, quand on malheureusement on perd un proche, un parent, un enfant. Voilà. Donc après, je dirais que le différentiel, c'est sur l'intensité, et parce que les traumatismes ne sont pas de même nature. Hein, mmh. Je pense, par exemple, un survivant, Monsieur Tsunomu Yamaguchi, qui était le survivant, le seul rescapé de l'attaque nucléaire, donc à Hiroshima, Nagasaki. Bon, toute sa vie, il a souffert de blessures physiques et psychologiques. Il a quand même combattu. Ça... C'est vrai que lui, dans son deuil, deuil de ses familles, de ses voisins, etc., était bien plus énorme probablement que malheureusement la perte d'un emploi ou d'un proche. Quoi.
Excusez-moi, on parle de complexe du survivant. C'est quelque chose qui existe vraiment ?
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que on est dans la culpabilité. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas de sens. On ne comprend pas pourquoi nous, on a été touchés de cette façon et d'autres, ça a été pire pour eux parce qu'ils ont perdu la vie. Donc c'est vrai qu'il y a à ce moment-là une sorte de culpabilité et surtout d'incompréhension. Pourquoi j'ai été touché si légèrement par rapport à d'autres personnes qui l'ont été plus... Je pense aux gens qui ont souffert dans le cadre de tsunami. Et en effet, ils relativisent en disant, mais nous, je pense à un couple de Hollandais, ils étaient survivants, mais ils disent, n'oublions pas tous les gens qui étaient là et qui risquent de mourir d'épidémie, des familles décimées, et c'est vrai que du coup, là, l'intéressé va s'apitoyer plutôt sur le sort des autres que sur son propre sort, il relativise, hein. Mais on garde ce sentiment de culpabilité, hein, quelqu'un qui, par exemple, je me souviens d'un contrôleur dans le métro qui avait mal assisté son collègue qui avait pris un coup de couteau lors d'un contrôle. Il s'en voulait énormément de ne pas avoir eu les bons gestes et d'avoir sauvé son collègue de l'agression, quoi. Donc ça peut rester pendant un bon moment quelque chose qui trotte dans la tête pendant quelques mois, voire années.
Patrick, vous qui avez vécu cet attentat, est-ce que ça a changé quelque chose dans le regard que vous portez sur votre vie ? Est-ce que ça vous a orienté d'une autre façon dans votre vie ?
Alors effectivement, ça m'a... Bon, la bousculade d'un événement comme celui-là, et comme disait Monsieur Rouch, la culpabilité, parce que c'est vraiment un des éléments essentiels du trauma, cette culpabilité. Pourquoi je ne suis pas mort, moi ? Pourquoi les autres sont morts ? S'ils ne m'avaient pas protégé, je serais mort. Enfin, vous voyez, ce sont des choses... Et en même temps, une fois qu'on refait surface... votre témoin tout à l'heure est extraordinaire, c'est quelqu'un, on ne peut même pas le prendre en exemple parce qu'il y a très peu de gens qui ont une telle force psychologique, mais quand même à un moindre niveau on a envie de réagir et enfin ça a été mon cas, envie de prendre le taureau par les cornes pour faire autre chose autrement et pour se dire je suis passé à côté de la mort, aujourd'hui maintenant tout ce qui me reste je vais essayer de l'utiliser pour faire ce que j'aime, pour faire les choses qui me plaisent, et ça a été une des raisons moi de mon changement professionnel, puisque j'étais installé en cabinet libéral comme psychologue clinicien et psychanalyste, et qu'à la suite de... J'ai été un an en traitement, un peu plus d'un an, où j'ai arrêté toute activité professionnelle. Et quand j'ai redémarré, j'ai pas voulu redémarrer ma profession d'avant. Alors peut-être aussi pour effacer le passé, quelque part, ça peut s'analyser aussi. Mais j'ai d'abord créé une société de communication, parce que j'avais envie de mettre mon potentiel de communication et de mettre mes connaissances de la relation humaine au service des entreprises. Et je suis intervenu dans les entreprises en période de crise, de difficulté, de conflit. Mmh. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et comme ça me tarabustait beaucoup de devenir photographe de presse, parce que j'ai eu une passion pour la photo depuis l'âge de 14 ans, j'ai décidé de faire le métier que je rêvais de faire depuis au moins 30 ans. Mmh. Et je suis devenu photographe de presse tout d'abord, et maintenant je suis à la fois photographe de presse et journaliste.
Oui. Mais souvent, et Esteban, est-ce que vous-même vous avez vécu, alors pas un événement aussi grave que ceux dont on vient de parler, mais un événement qui vous a fait prendre conscience justement de la vie et de ce potentiel que vous aviez entre les mains ?
En fait, par chance, j'ai pas vécu des drames aussi lourds que ceux dont vous avez parlé.
Bien sûr, oui.
Mais j'ai, bon, en particulier, j'ai été élevé moi par et essentiellement par ma grand-mère. Que j'ai gardé très longtemps, qui a dépassé les 100 ans et que j'ai vu sur les dernières années clairement dépérir de manière presque insoutenable, comme on peut être souvent confronté aux gens qu'on aime qui deviennent vieux, très vieux, très très vieux. Mmh. Et le jour où elle est morte, paradoxalement, j'avais fait mon deuil pendant qu'elle était en train de partir et de mourir. Et il y a une espèce de légèreté en moi qui est arrivée et qui a changé un peu ma vision des choses et qui m'a aidé à booster ma vie professionnelle, personnelle et à changer mon fusil d'épaule. Alors, encore une fois, c'est très moindre hein, par rapport à toutes les choses que vous évoquez, mais ça me fait penser un peu à un symbole, on y croit ou pas, mais dans la science de l'interprétation des rêves, parfois on rêve de mort. Et en fait, quand on s'intéresse à l'explication, la mort dans un rêve n'est pas la fin, c'est au contraire le début d'un renouveau.
Et oui, c'est le début. Patrick, vous avez parlé tout à l'heure, pendant l'attentat, de votre femme qui se mettait en action. Tout de suite, elle s'est mise dans l'action pour essayer d'être utile. Bon, après, vous avez dû sortir, les pompiers sont intervenus. Est-ce que l'action, c'est un moyen aussi de dépasser la souffrance ou de dépasser l'insoutenable ?
Alors, je le crois très sincèrement, mais ça n'a pas empêché que, à la suite, quand on a été rentré en France, qu'elle ait eu quand même le contre-coup de cet attentat. Mais comme elle n'avait pas de blessures physiques et qu'à l'époque les traumatismes psychologiques étaient relativement peu reconnus et très difficiles à faire reconnaître, elle n'a pas été prise en charge du tout. Son activité médicale lui a permis de faire face. Et je vais vous raconter une anecdote qui était vraiment le hasard. Le 13 novembre, ma femme faisait partie des médecins qui étaient en grève et qui étaient partis manifester à Paris. Mmh. Le soir des attentats du 13 novembre, oui. Où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins libéraux de province qui étaient à Paris pour manifester. Ils se sont tous mis à la disposition des hôpitaux de Paris.
Eh oui, je me rappelle.
Mais elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu parce que le traumatisme de l'attentat est revenu et elle s'est trouvée vraiment complètement inhibée par ce souvenir rétroactif. Quoi. Mmh.
En tout cas, Patrick Cranier, merci mille fois d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous accueillir dans cette émission. Merci Jean-Pierre Vouche aussi d'avoir été avec nous. Et puis on embrasse Franck Bruno qui est sur son bateau en train de réparer son mât. Et Stéban Perrois, vous restez avec nous pour la
avec
deuxième
plaisir.
Heure.
Et vivons haut et fort.
Et
tous.
Vivons, voilà, c'est ce qu'on voulait dire dans cette émission. Vivons et soyons heureux. À tout de suite sur Sud Radio.